casse trop les couilles d'aller en cours demain. Je te jure, j'aimerais trop être en vacances.
Ouais, grave.
Regardez-moi. J'ai 15 ans et demi.
Ouais, Sarah, tu rentres à la maison.
D'un âge à l'autre, ce soir, dans le rendez-vous en direct sur France Culture, il sera question de la Chine, du Collège, de la Révolution culturelle, de Maurice Pialat, d'animaux et même de déviergés. Avec Jean-Jacques Hano qui réalise Le Dernier Loup, coproduction franco-chinoise pour un film fondé sur les relations homme-animal, comme une métaphore de la colonisation, un sujet à l'origine de son cinéma dans La Victoire en chantant, Oscar en 1977. Benoît Lagane.
Et avec son nouveau film, on retrouve tout le souffle de Jean-Jacques Hano, qui, après le nom de La Rose, L'Ours ou Stalingrad, démontre une nouvelle fois tout son talent d'architecte du cinéma, marqué entre autres par un brillant usage de la voix off.
19h30, encore des Oscars pour la chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne, qui met ce soir à son programme le film multi-oscarisé 2015 Birdman, du réalisateur Alejandro González Iñárritu. Et 19h35, plateau Génération, avec Hélène Zimmer, qui signe à 14 ans. Excellent premier film pour un portrait cadré de trois collégiennes d'aujourd'hui. Les adultes, eux, ont du mal à rentrer littéralement dans le cadre. Lucille Comeau.
Un film français sur l'adolescence qui évite le triple écueil de la morale, du drame humain et de la sociologie, c'est suffisamment rare pour le souligner.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de Zoé Sfès que l'on ouvre sur le son du jour. Bonsoir Zoé Sfès.
Bonsoir Laurent Gomard, bonsoir à tous.
Un son du jour aujourd'hui très version originale.
Tout à fait, c'est la bande-annonce du film Œil et Sirène, un film saoudien. Je vous en parle car le deuxième festival du film saoudien vient de s'achever à Dammam, dans l'est du pays. Ce sont deux femmes qui ont remporté les deux premiers prix. Anna Elomayr a reçu le palmier d'or, puisque c'est la récompense ultime de ce petit festival, pour son film La Plainte, qui met en scène les déceptions d'une employée d'hôpital. Et c'est donc Œil et Sirène dont on entendait la bande-annonce de la réalisatrice Shahad Amin qui gagne le deuxième prix. Un palmarès qui confirme l'audace des organisateurs de festival. Je le rappelle, il n'y a pas de salle de cinéma en Arabie Saoudite, ce qui est un paradoxe, donc, de faire un festival de cinéma. Les conservateurs ont beaucoup critiqué ce festival, puisque femmes et hommes s'y sont mélangés pendant 5 jours. Et en choisissant de faire gagner deux femmes, le jury a dit qu'il voulait mettre en valeur leurs propos. Et je rappelle, les femmes ne peuvent ni conduire, ni voter dans le royaume saoudien.
Tout de suite, on passe au dossier du jour, un dossier cinéma très technique. Mais on va comprendre quelque chose.
On va essayer.
Hier, le Conseil d'État a annulé l'extension à tous les producteurs petits et gros de la fameuse convention collective du cinéma français, signée en 2012 après 7 ans de négociations. Cette décision va relancer, bien sûr, le dossier qui a pourtant empoisonné la profession pendant des années.
Oui, alors, pour comprendre cette histoire, il faut retourner en 2012. Alors, à ce moment-là, il y a quasiment tous les syndicats de salariés qui demandent l'application de conditions salariales et de durée de travail à toutes les productions, les grosses comme les petites, donc on fixe des salaires horaires, le principe des paiements des heures supplémentaires, etc. Donc tout ça, y compris pour les plus petits producteurs, mais donc commence une grande guerre entre producteurs. Seuls les mastodontes Pathé, Gaumont, UGC et MK2 acceptent de signer ce texte. Tous les producteurs de films à petit budget ou films dits fragiles craignent, eux, de ne plus pouvoir financer leurs films. Et comme l'explique Juliette Pressard, déléguée générale des syndicats des producteurs indépendants.
Bon, ce premier texte représentait pour nous un grand danger dans la mesure où il ne prenait pas en compte la diversité de la production cinématographique. Et donc, il proposait des tarifs trop élevés et ça ne permettait pas à des films à économie plus dits fragiles de pouvoir être produits et donc il y avait un risque de disparition de tout un pan de la cinématographie française. Donc nous avons négocié durement et nous sommes parvenus à un avenant qui a permis de prendre en compte la diversité de la production au travers des grilles, fonction des budgets, des économies des films.
En effet, donc, pour calmer le jeu, le gouvernement accepte de créer un avènement qui limite les dégâts pour les films à petit budget et c'était le retour de la paix sociale.
Oui, grâce à ce deuxième texte, donc c'est un avenant à l'extension, il faut rappeler ça parce que c'est quand même assez compliqué. Quasiment tout le monde accepte finalement cette convention mais il reste quand même quelques mécontents, notamment le syndicat des films publicitaires hein, qui eux voient la convention s'appliquer mais qui ne rentre absolument pas évidemment dans la catégorie des films de création et la CFDT qui elle voulait une convention générale et qui considérait que bien les négociations avaient été complètement bâclées. Il porte donc un recours devant le Conseil d'État contre le texte de départ, l'extension, qui, rappelez-vous, n'avait été signé à l'époque que par les mastodons. Et hier, le Conseil d'État leur a finalement donné raison en considérant qu'à ce moment-là, eh bien, ces producteurs n'étaient pas assez représentatifs. La CFDT espère donc que grâce à cette victoire, cela va relancer des vraies négociations de fond sur le texte, comme l'explique son secrétaire général René Fontana-Rava.
Je pense que c'est une occasion qui est donnée à l'ensemble de la profession pour que nous puissions trouver, mais tous ensemble, une sortie. Donc maintenant, ce qu'on souhaite, c'est une renégociation, pas tout renégocier, mais voir au moins les points qui posent débat pour éviter encore une nouvelle déconvenue de l'administration française. Je pense qu'une sortie par le haut est possible si maintenant le gouvernement, comme il a annoncé dans son communiqué de presse, va de nouveau demander une extension du texte sans qu'il y ait eu une réunion préalable des organisations représentatives. Je crains que le gouvernement et l'administration aillent vers de nouveaux déboires.
Mais pas certain que la décision du Conseil d'État change beaucoup les choses, car le ministère semble décidé à ne pas tout remettre en question.
Bah oui, c'est effectivement ce qu'expliquait René Fontana-Rava. Le ministère a publié un communiqué dans lequel il indique eh bien, qu'il va très vite réimposer une extension sans tout renégocier. Au final, rien ne va changer. C'est un peu un coup d'épée dans l'eau, cette décision du Conseil d'État. Car en effet, même les producteurs, comme Juliette Pressard, qui étaient au début contre ce texte, entre-temps, on l'a dit, ont obtenu des aménagements pour eux, et ils ne veulent surtout pas remettre en cause une paix sociale qui a été si difficile à obtenir.
Bah, pour nous, il ne se passe pas grand-chose. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Hein. Nous souhaitons arriver à un dialogue apaisé autour de ce texte. C'est-à-dire qu'il a fait l'objet d'un contentieux absolument épouvantable, d'un climat social très difficile, c'est de zizanie dans le secteur, pour ne pas dire de violence. Nous sommes parvenus à retrouver une forme de paix et nous souhaitons continuer à la conserver. Et nous souhaitons pouvoir sereinement proposer un certain nombre d'ajustements.
Voilà, parce qu'effectivement, il y a des ajustements qui restent toujours nécessaires au sein de la commission paritaire mixte. Alors, même si le texte n'est pas fondamentalement remis en cause, eh bien, cette convention collective doit continuer d'évoluer comme toutes les conventions collectives.
Est-ce qu'il y a des réactions de la part de nos deux réalisateurs, Jean-Jacques Hano, Hélène Zimmer, Jean-Jacques Hano? Écoutez, vous qui revenez de Chine.
Ça me semble très compliqué de faire du cinéma. Voilà ce que je comprends après ce long texte auquel je n'ai pas compris grand-chose. Sauf que, je ne sais pas, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne sur un plateau. Je ne sais pas de quoi ces gens parlent, pardonnez-moi, mais je n'y comprends rien.
Comment ça fonctionne en Chine pour vous ?
Moi je suis sur un plateau, j'ai des collaborateurs qui se donnent du mal, qui bravent la tempête, qui sont au service d'une histoire. Et ces problèmes-là ne...
Vous pensez que ces problèmes-là n'existent pas ? Enfin, ils existent sur n'importe quel plateau,
non, parce que
ce soit
les
en Chine ou ici.
Pas. Vous savez, le cinéma, c'est beaucoup de la débrouille. Même si on a une grosse équipe, c'est une grosse équipe qui se débrouille. On est des aventuriers. Je crois qu'on fait du cinéma dans cet esprit-là. Ma jeune collègue...
J'en tirerai rien, là.
Non, mais si vous voulez, c'est vrai que... on est animé par une passion, on compte pas nos heures. Enfin, moi, j'ai jamais compté, quand j'étais tout gamin, que je sortais de l'école de cinéma, ceux qui m'accompagnaient dans mes aventures le faisaient pour la joie et l'exceptionnalité de faire ce métier. Alors là, je ne sais pas s'il faut remplir des formulaires, c'est un autre travail.
Hélène Zimmer, jeune réalisatrice, premier film.
Eh bien, en 2012, je préparais donc ce premier film. Donc, j'avais des échos de cette convention. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, je comprenais le discours des techniciens qui cherchaient à ce que leurs heures supplémentaires soient payées, etc. Parce qu'à partir du moment où un travail est régularisé et ordonné et que ça passe par l'État, s'il y a des règles pour chaque métier, je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas dans le cinéma. Mais c'est certain que ça pose de gros problèmes sur le type de film qui va être produit par la suite. Et mon film n'aurait certainement pas pu être produit, par exemple, si cette convention avait été appliquée.
Tout de suite, on passe au bref, Zoé.
Et l'on ouvre avec le gouvernement russe qui a annoncé aujourd'hui une augmentation malgré la crise des subventions octroyées pour le cinéma qui donneront la part belle aux films patriotiques évoquant soit la Seconde Guerre mondiale, soit l'histoire de la Crimée. Et oui, privilégiés, nous choisissons des thèmes qui méritent d'être encouragés, dit le ministre de la Culture. En tout, le budget du cinéma sera de 70 millions d'euros.
La Fondation Louis Vuitton à Paris a accueilli 400 000 visiteurs depuis son ouverture. C'est bien.
Et oui, elle semble sur la bonne voie pour dépasser ses objectifs de fréquentation qui étaient 700 000 visiteurs par an. Déjà 400 000 donc ont poussé la porte du bâtiment seulement en 4 mois. Jean-Paul Clavery, conseiller du président, attribue ce succès à une politique tarifaire particulièrement incitative, selon lui, pour une fondation privée.
Vous savez que ce n'est rien parce que le film de Jean-Jacques Hano en Chine, c'est 1,2 million, c'est ça?
C'est la Chine, les amis.
Par jour. Par jour. C'est autre chose.
Il y a beaucoup d'habitants.
Ouais. Mais Vuitton est très apprécié aussi en Chine. J'étais pas totalement hors sujet. On continue. Le château de Versailles, encore évacué pour un colis suspect?
Oui, il a été évacué pendant plus d'une heure cet après-midi après la découverte d'un colis suspect qui finalement n'en était pas un. Environ un millier de visiteurs ont dû interrompre leur visite et quitter les lieux. Les évacuations sont de plus en plus fréquentes depuis le déclenchement d'alerte maximum du plan Vigipirate à Paris et ils entraînent des coûts importants pour le château.
La dernière,
c'est une histoire de clonage de Van Gogh, une histoire qui renvoie les bons vieux faussaires aux oubliettes. Je vais vous parler de clonage, donc pas de clonage humain, mais de clonage d'œuvres d'art, puisque le Fairmont Palace de Dubaï accueille bientôt une curieuse exposition Van Gogh. Alors voilà, jusqu'au 31 mars, on aura 9 toiles, 9 des toiles les plus connues du génie maudit, donc les tournesols, les champs de blé sous nuages orageux et la récolte, qui sont donc là. Alors, il ne s'agit pas d'originaux, pas de prêts donc, pas non plus de copies illustres, mais de copies toutes fraîches de clones, car ces copies ont été copiées non pas par la main faillible de l'homme, mais par un rigoureux ordinateur. C'est la société Fujifilm Belgique qui développe une technologie qui combine un balayage laser des originaux pour une impression haute résolution 3D. Donc en fait, dans ces toiles, on a tout, y compris les fameux empattements de Van Gogh, les craquelures du vernis, etc. Donc, ces clones ont été conçus en parfait accord, il faut le dire, avec le musée Van Gogh d'Amsterdam. L'exposition est même cautionnée par l'arrière-petit-neveu de l'artiste, qui sera là pour boire du champagne lors du vernissage.
Et du champagne là-bas, non?
Voilà, cautionner l'entreprise. Tout ça, donc il faut dire quand même que c'est une entreprise extrêmement juteuse, puisque chacun des 9 originaux a été reproduit 260 fois, et que chacun de ces tirages, hein, on parle de tirage, ni de toile, ni d'exemplaire, sera vendu 25 000 euros.
Ah oui. Des réactions à ce que l'on vient d'entendre, Jean-Jacques Hano?
Écoutez, il y a un texte d'Umberto Eco qui s'appelle L'œuvre ouverte, dans lequel Umberto décrit... Non, c'est pas dans l'œuvre ouverte, c'est dans ce qu'il avait appelé la guerre du faux. Il dit assez justement que si la copie est aussi bien que l'original, pourquoi ne pas s'extasier devant la copie?
C'est un principe presque oriental, pas du tout occidental en effet. Zoé, on se retrouve demain pour la suite de Journal de la Culture.
Avec plaisir, et n'oubliez pas que vous pouvez réécouter et podcaster ce journal sur le site de France Culture.
Pendant combien de jours?
Pendant, je crois, un millier de jours, mais je ne suis pas sûre.
J'en reviendrai demain jours. Pour 1000 jours en France, 1 million en Chine.
Le rendez-vous.
Je 满山遍野都是软的，放他走吧！我够了，小的是我一种一种伟大的。你把神抓起来，让他变为了奴隶，你会跟他报应的。你走吧。
Plateau exception française avec vous, Jean-Jacques Hano, d'abord remarqué et reconnu aux États-Unis au milieu des années 70 avec votre premier long métrage, La Victoire en chantant, Oscar du meilleur film étranger à l'époque. Et puis il y aura Coup de tête, La guerre du feu, Le nom de la rose. Aujourd'hui, vous signez votre 13e long métrage, Le dernier loup, dont on vient d'entendre une rapide évocation en ouverture de plateau. L'histoire en deux mots, Benoît.
C'est l'histoire de Chen Zhen, un étudiant originaire de Pékin, envoyé à la fin des années 60, donc au début de la révolution culturelle, en Mongolie intérieure, afin d'éduquer des bergers nomades. Mais face à une nature impressionnante et hostile et au mode de vie traditionnel des bergers, la situation s'inverse. C'est un voyage initiatique pour l'étudiant qui va alors se confronter aux meilleurs amis et ennemis des nomades, les loups et le pouvoir central.
Le film est une coproduction avec la Chine et surtout c'est l'adaptation d'un énorme best-seller paru en Chine en 2004, Le totem du loup de Jiang Rong. Je sais que vous l'avez rencontré, vous avez même parcouru la Mongolie intérieure avec lui lors de votre premier voyage pour enrichir votre adaptation. Qu'est-ce qu'il vous a transmis qui a pu influencer plus tard vos choix de réalisation ?
Il m'a d'abord fait visiter les lieux où s'était passée l'histoire qu'il raconte dans son livre. Mais au-delà des lieux, j'ai surtout baigné pendant 3 semaines dans la culture nomade. Parce qu'il m'a emmené dans les yourtes où il a rencontré devant moi des amis qu'il n'avait pas vus depuis 40 ans et qui avaient été les témoins de l'histoire. À travers eux, j'ai pu me replacer dans cette époque très singulière de la Mongolie à l'époque du début de la révolution culturelle. Là-bas, ils étaient tellement loin que cette révolution culturelle, ils n'en avaient qu'un écho extrêmement diffus. Et les gens que j'ai rencontrés étaient encore tout à fait dans la pensée traditionnelle de cette région, avec effectivement, encore de nos jours, une vénération pour ce loup qui, comme vous le disiez, est un ennemi, mais aussi un auxiliaire. Car sans le loup, il y a trop de rats, et les rats dévastent la steppe en arrachant les herbes et en la désertifiant. Donc les nomades, traditionnellement, savaient qu'il fallait payer un prix pour ce nettoyage. Le prix, c'était quelques bêtes prélevées chaque année, mais ils ont beaucoup vécu en compagnie des loups, et ils se sont surtout inspirés des loups pour conquérir le monde. Gengis Khan observait les loups, et c'est comme ça qu'il est venu jusqu'en Europe, et qu'Attila est venu jusqu'à Orléans.
En parlant avec l'auteur du livre, comment vous avez compris le succès de ce roman qui a été publié d'ailleurs en Chine, je crois, sous pseudo à l'époque?
Eh bien, oui, Jiang Gong n'est pas le nom de ce personnage. En fait, ce qui s'est passé, c'est que personne n'a prêté attention à ce bouquin extrêmement épais qui se situait à cette époque reculée dans cette région des frontières du nord de la Chine, et que à peine ce bouquin a-t-il été publié qu'il a généré une attention extraordinaire parce qu'il mettait le doigt sur un problème dont souffre la Chine et dont on ne parlait pas à l'époque. Le roman a été publié à 10 ans. C'était l'industrialisation massive et la destruction de l'environnement. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, la Chine va devenir en pointe sur les énergies renouvelables, tout simplement parce qu'ils sont asphyxiés. Donc ce roman a permis une prise de conscience. Et c'est à cette époque-là que moi-même j'ai été approché pour en faire l'adaptation.
Votre film n'est pas tendre avec le pouvoir central de Pékin qui voulait, pendant la révolution culturelle, imposer l'industrialisation agricole dans les steppes mongoles. Notamment, par exemple, vous mettez en scène le représentant chinois dans des postures qui rejouent les images de propagande à l'époque, vues en contre-plongée sur fond de ciel de cet homme qui pose de façon triomphante sur un tracteur. Ça m'a rappelé que certains de vos films n'avaient pas été très bien reçus là-bas en Chine, notamment 7 ans au Tibet, puisque vous preniez fait et cause pour le Tibet à l'époque, ou encore l'amant, qui est encore aujourd'hui, je crois, interdit en Chine. Comment êtes-vous perçu par le bureau de la censure qui, je crois, a étudié très précisément la guerre du feu et le nom de la rose, Jean-Jacques Hano?
Bah écoutez, en fait, ce qui se passe et qui était une surprise pour moi, c'est que mes différents films sont des passages obligés dans les différentes académies de cinéma, d'art dramatique et dans les universités. Donc je me suis trouvé tout à fait en famille en Chine, et les gens qui sont venus me chercher avaient fait leur mémoire de fin d'études sur un de mes films. Et les gens qui sont encore aujourd'hui au-dessus d'eux sont des gens qui connaissent mon travail très très bien. Ça peut beaucoup surprendre ici certains qui n'apprécient pas trop mes films, ce que je comprends volontiers. Mais là-bas, si vous voulez, j'ai un autre statut qui m'a permis de bénéficier d'une liberté absolue, tout à fait étonnante.
Benoît. Alors avec Le Dernier Loup, on retrouve votre goût pour la nature et les animaux. Alors bien sûr, il y a l'ours, les tigres de 2 frères. On pense aussi à la scène introductive de Stalingrad, dans laquelle vous avez mis en scène un enfant qui apprenait à chasser un loup. Et dans chacun de ces films, il y a une constante. Vous placez votre caméra au plus près du sol. Vous filmez l'animal derrière les herbes hautes, presque à l'opposé d'une esthétique de documentaire animalier qui tend à avoir l'animal au plus près. Comment ce parti pris s'est-il imposé, Jean-Jacques Hano?
D'abord peut-être pour mon admiration pour Ozu, qui était un metteur en scène japonais, qui était toujours à hauteur de tatami. Mais là, si vous voulez, il faut absolument se distinguer justement du film animalier. Ce sont des films de fiction, dont certains personnages sont des quadrupèdes. Alors il y a déjà une nécessité, c'est d'être bien dans le regard. La chose essentielle pour capter l'âme et le sentiment, c'est de lire à travers la fenêtre des yeux. Donc je suis amené, évidemment, à me rapprocher beaucoup. Et j'ai été amené, pour filmer les loups, à filmer de la manière, une manière semblable à Stalingrad, où j'allais chercher les yeux des snipers. Pourquoi ? Ben parce que les loups sont des snipers, ce sont des guerriers, des chasseurs qui ont comme caractéristique de la patience et l'art de la dissimulation. Donc, si vous voulez, il y a forcément des correspondances. Et quand je fais un film comme Le Dernier Loup, je suis amené à utiliser la même stylistique pour les humains que pour les loups. Donc, tourner généralement en utilisant la première prise et avec des techniques de tournage semblables.
Alors, l'une des premières scènes que vous avez tournées, je crois, c'est l'attaque d'un troupeau de chevaux par les loups en pleine nuit, une scène presque fantastique, pendant une tempête épouvantable. Vous avez tourné avec des caméras 3D dont personne ne savait servir et qui étaient dans un état épouvantable, hein, c'est votre expression. Qu'est-ce que vous avez dû inventer techniquement pour arriver à cadrer une course-poursuite incroyable de l'intérieur ?
Si vous voulez, chaque image requiert une longue analyse. Il y a 180 plans dans cette scène.
Et vous storyboardez tout, je crois.
Sur les scènes très techniques comme celle-là, oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas improviser des scènes pareilles. Quand vous avez une meute de 45 loups, 250 chevaux, le tout dans la nuit, le blizzard au fin fond de la Mongolie, il est sûr qu'il faut, au contraire, prévoir chaque image, l'imaginer, la prévoir dans sa tête, la faire dessiner afin de l'expliquer aux autres. Et les techniques sont extrêmement variées. Sur certains plans larges, j'ai utilisé des drones, avec des cavaliers habillés en bleu de façon à les faire sauter en post-production.
Ah d'accord.
Ah oui, c'est comme ça qu'on garantit la sécurité des animaux, sinon ils vont se sauter les uns sur les autres. Les chevaux n'ont qu'une idée, c'est de botter ces fauves qui sont en train de les attaquer. D'autres fois, j'ai été obligé de mettre des barrières physiques entre les animaux et de les supprimer après ces barrières. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, c'est du 100% loup et du 100% cheval, mais il y a des roueries, il y a de la magie du cinéma qui permet de faire des scènes aussi complexes, sans danger pour les techniciens, pour les animaux.
Hélène Zimmer, vous qui êtes d'une autre génération, est-ce que vous connaissez quelque chose du cinéma de Jean-Jacques Hano ?
La guerre du feu qu'on m'a souvent montré à l'école primaire.
Vous voyez !
Et qui m'a traumatisée.
Ça sort plus tôt quand même.
Et je l'ai revu récemment et voilà, en fait les scènes voilà, de sexe qui m'ont... j'ai revu et en fait c'était pas du tout comme dans mon souvenir. Elles m'ont vraiment...
C'était mieux dans votre souvenir ?
Ah, c'était terrifiant, j'avais l'image juste de femmes qui attendaient comme ça et d'hommes qui se jetaient sur elles à chaque fois comme des bêtes. Et on nous montrait ça comme, voilà...
À l'école primaire.
À l'école primaire, en classe, voilà d'où vous venez, voilà qui vous êtes. Très bien, voilà. Et l'amant aussi que j'avais vu quand j'étais...
À l'école aussi ?
Non, parce que quand je m'intéressais à Duras, quand j'étais au lycée, voilà. Voilà, en fait, ce sont les deux seuls films que j'ai vus de vous, mais qui m'ont marqué.
Très bien, j'en suis très heureux. Je vais aller voir le vôtre rapidement.
Alors, le film Le Dernier Loup nous a donné envie de relire justement votre cinématographie. Avec Thomas Beau, on a revu 7 films. L'occasion donc pour notre réalisateur de réécrire un palimpseste de votre cinéma, pour reprendre votre formulation. Jean-Jacques Hano, montage.
Ouais ! Lien !
Oh, ça va pas, non ?
Et voilà. Voilà comment tout a commencé.
Arrivé au terme de ma vie de pauvre pêcheur, désormais chenu et vieilli comme le monde.
Ce vieillissement a été brutal. Brutal. Ce vieillissement, je l'ai vu gagner mes traits un à un. Au contraire d'en être effrayé.
Je m'apprête à laisser sur ce parchemin témoignage des faits admirables et terribles auxquels j'ai assisté dans ma jeunesse.
Tous les êtres tremblent devant le danger et la mort.
Puisse ma main ne pas trembler maintenant que je m'apprête à ressusciter le passé.
Qu'est-ce que c'est ? Petit imbécile. Ce n'est qu'un miroir.
Mierda ! Mode !
Je n'ai pas peur. Je suis un grand garçon.
La vie est chère à tous. Un homme qui considère cela refuse de tuer ou de faire tuer.
Allez, Vassili, feu ! Tire, Vassili ! Tire ! Petit imbécile, ce n'est qu'un miroir. «
Alors parmi ces 7 films, Coup de tête, La guerre du feu, Le nom de la rose, L'ours, L'amant, 7 ans au Tibet, Stalingrad, on voulait même glisser La victoire en chantant et on manquait un petit peu de temps.
Commentaire sur ce montage.
J'ai pas tout reconnu parce que c'est de l'AVF. Et comme évidemment j'ai les voix dominantes sont les voix de l'AVO. J'ai eu du mal à reconnaître Sean Connery par exemple.
Ce qui frappe, hein, c'est le travail du son, notamment dans cette bande originale faite par notre réalisateur. Très impressionnant, on l'entend dans ce montage. Notre réalisateur a à la fin superposé deux ambiances, celle de L'amant et du nom de la rose. Et on se rend compte véritablement qu'il y a une signature sonore dans votre cinéma, qui est par ailleurs peu bavard. Quelle est votre idée du son au cinéma, Jean-Jacques Haneau ?
Écoutez, lorsque je fais une image, je pense tout de suite à ce que donnera le son, parce que le son, c'est l'autre composant. Avec la même image, vous pouvez totalement transformer son sens si vous mettez, par exemple, des gazouillis d'oiseaux ou un orage lointain. C'est deux choses complètement différentes, ça vous donnera un frisson qui n'est pas le même. Et bien entendu, l'autre couche, c'est la couche musicale, qui peut elle-même contredire ce que le son vient de faire. Donc une image, elle est toujours contrapuntique. Il faut toujours la concevoir avec l'instrument musique, avec la bande-son. Et j'ai d'ailleurs une difficulté, c'est de présenter mes films avant que la bande-son ne soit faite. Parce qu'ils sont généralement incompréhensibles. Si vous prenez des films comme L'Ours, par exemple, ou La guerre du feu, c'est des films qui ont besoin de l'explication du son. Je ne complète jamais l'image, je laisse toujours une marge extrêmement importante à la bande-son. Et j'insiste, il y a deux couches de bande-son, les atmosphères, les effets, ça c'est une chose, et la musique qui, pour moi, apporte 40 à 50% du sens du film.
On l'entendait aussi au début de ce montage, la parole prend souvent la forme de la voix off. L'amant, bien sûr, avec Jeanne Moreau. Le nom de la rose, c'était le même cas. 7 ans au Tibet, pareil. Dans le dernier loup, idem. Qu'est-ce que vous aimez dans la voix off ? Est-ce que c'est votre côté Citizen Kane ?
Elle donne une distance littéraire qui est très agréable. Elle permet de donner le sens d'un conte. Elle donne une distance et donc une profondeur supplémentaire à l'image. Je parlais de différentes couches. Ben, la couche de la voix off, si vous racontez différemment ce que vous voyez dans l'amant, c'est très caractéristique. Vous voyez une très jolie jeune fille et la voix off vous raconte le vieillissement. Donc déjà, vous avez une image infiniment plus riche. Parce que ce qui est intéressant, c'est que la voix off ne raconte pas la même chose que l'image, au même titre que la musique doit apporter un supplément, j'ai envie de dire un supplément d'âme, à cette image.
Alors vous avez commencé par deux comédies, La victoire en chantant et Coup de tête. Vous avez même co-signé le scénario de Je suis timide mais je me soigne de Pierre Richard.
Eh oui,
vous avez été élu à l'Académie des Beaux-Arts au fauteuil de Gérard Houry en 2007. Mais à 27 ans, on a pu lire que vous aviez été victime d'une dépression. Vous avez alors souffert, je vous cite, du métier que je faisais. J'étais triste comme peut l'être un clown. Vous avez réinvesti la comédie 30 ans après avec Ma Majesté et Mirror. Avec le recul, comment avez-vous analysé cette difficulté personnelle à vous confronter à la comédie ?
Mais si vous voulez, j'ai fait de la comédie tout à fait par hasard, parce que je suis sorti des écoles de cinéma, j'ai fait les deux. J'ai fait Louis Lumière et la Fémis, qui s'appelait autrefois l'école de Vaugirard et l'IDEC. Et je suis sorti à 21 ans, infiniment jeune et bébé. Et le hasard de la vie a fait que j'ai été tout de suite sur un plateau de films publicitaires, comme assistant une journée, et le lendemain, le vrai monsieur Jean Mineur, qui était un petit monsieur qui était, se baladait pas avec un piolet, comme vous vous souvenez, ce personnage de publicité, m'a tout de suite proposé de devenir metteur en scène de pub. Et je croyais pas que c'était possible de gagner de l'argent en faisant le métier qu'on aimait. Le problème, c'est que ça a très 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 bien marché. Je faisais un film publicitaire par semaine, j'en faisais donc une soixantaine par an, et je me suis vite aperçu que le rêve qui était le mien, celui de ce jeune élève des écoles de cinéma qui allait tout le temps à la Cinémathèque, j'avais mon siège réservé, le siège D2, pendant 4 ou 5 ans, et je passais toutes mes soirées là, et d'un seul coup j'étais amené à faire des trucs de 30 secondes. Évidemment que je ne pouvais pas faire du Kurosawa en 30 secondes. Je me suis aperçu que la seule chose qui marchait, c'était soit le spectacle, soit le gag. Donc, semaine après semaine, je me suis un peu spécialisé dans le gag. Donc, tout le monde croyait que j'étais un metteur en scène de comédie. Jusqu'au jour où, à force de rire de tout, j'ai été malheureux de tout. Et j'ai complètement plongé. En plus, j'étais extrêmement malheureux. Je me suis retourné sur 3 ou 4 ans de vie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là ? Alors j'avais vendu de tout, des couches-culottes, des croquettes pour oiseaux, du cirage, des bagnoles qui étaient supposées résister à tout et qui évidemment se plantaient à chaque virage. J'en ai conçu une très grande culpabilité parce que j'ai fait des films et je m'en suis rendu compte après pour des produits abominables et complètement je faisais des publicités mensongères, mais j'étais tellement innocent et tellement joyeux, si vous voulez, d'arriver sur un plateau, de faire un casting, faire du montage, avoir des compositeurs qui composaient des musiques originales de 30 secondes. Donc, j'avais pas compris le but, pardonnez-moi. Et après, je suis devenu une vierge effarouchée.
Très effarouchée. Pour terminer, on vous a demandé, comme à chaque invité, de nous apporter un son qui vous a marqué. Et voici l'énigme que vous avez choisi. Identification de ce son, Jean-Jacques Haneau, et la raison pour laquelle vous l'avez choisi.
Alors, on m'a dit qu'il ne fallait pas que ça soit lié à mon film.
Oui, puisqu'on en a parlé.
Donc, j'ai pris soin de doter le film d'une caméra Gaumont de 1895 qui fait partie de ma collection. Et ce que vous entendez, ce bruit de moulin à café, est celui donc d'une des toutes premières caméras construites en France. Elle est en bois. Elle est magnifique. Et le deuxième son est le son d'un projecteur de 1910, qui est un projecteur de ce qu'on appelait de tourneur, c'est-à-dire de gens qui se baladaient de salle communale en salle communale avec un projecteur 35 mm. Ce que vous entendez, vous avez réagi en disant c'est un bruit de machine à coudre. Je vous rappelle.
Non, pas moi, mais c'est la jeune femme qui. L'atavisme féminin, certainement. Enfin,
elle a tout à fait raison, car l'histoire du cinéma eût été différente si Madame Lumière n'avait pas une machine à coudre de Marc Singer. Car le problème de Lumière était de faire en sorte que les images soient exposées une fraction de seconde et que l'image successive se retrouve à la même place. Et c'était une énigme. Et quand il a vu sa femme coudre la machine, il s'est aperçu que c'était le fonctionnement de la machine à coudre avec ce qu'on appelle une cam. Il a donc construit la première caméra Lumière en regardant une machine à coudre. Et c'est un peu le son que vous avez écouté.
Le rendez-vous, la chronique.
On vous retrouve tout de suite Jean-Jacques Haneau et Hélène Zimmer, mais tout de suite c'est la chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne. Ce soir à son programme des Oscars.
Ouais. Birdman, le film qui a gagné 4 Oscars dimanche soir, dont celui de meilleur film, qui est donc le nouveau film de Alejandro González Iñárritu, qui sort aujourd'hui en France, qui est pas un film que j'aime sans réserve, mais qui est un film assez fascinant, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'il est à la fois très théorique, tout en voulant être très très séduisant, et qu'il a cette particularité d'additionner des concepts qui ailleurs auraient suffi à faire un seul film. Et Iñárritu, qui n'est pas du tout un cinéaste minimaliste, qui a plutôt une veine en lui assez baroque, accumule comme ça différentes couches conceptuelles dans son film, donc c'est assez fascinant. Alors le premier concept, qui est le plus simple, le plus classique, il s'agit comme ça d'organiser une porosité entre le personnage principal du film, qui est un comédien qui s'appelle Regan, et l'acteur qui l'interprète, qui est Michael Keaton. Regan, c'est quelqu'un qui a été célèbre il y a une vingtaine d'années parce qu'il a été un super-héros très populaire qui s'appelait Birdman, qui a un peu raté sa carrière, qui a un peu disparu et qui revient à Broadway en montant une pièce de Raymond Carver. Donc évidemment, on reconnaît le trajet de Michael Keaton, qui était une star il y a 20 ans chez Tim Burton dans Batman, qu'on a un peu perdu de vue et auquel le film offre l'occasion de faire un comeback assez stupéfiant. Et Michael Keaton, qui est très attachant et très émouvant dans le film, fait beaucoup de la séduction du film. À cette mise en abîme, le film en rajoute une autre, plus généralisée, qui consiste à organiser une sorte de brouillage des frontières entre le théâtre et la vie, dans une tradition cinématographique qui partirait, disons, du Carrosse d'or de Jean Renoir, qui passerait par Opening Night de Cassavetes, et où le théâtre sort de ses gonds pour aller de la scène à la salle et se répandre dans la vie. Donc tout ça, c'est un pérandélisme assez connu, assez codé, mais il y a une nouvelle couche supplémentaire, un nouveau tour de vis qui est plus étonnant, c'est que si le personnage de Keaton se confond un peu à celui de Regan se confond aussi à celui de Birdman. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le film avance, on découvre que ce comédien new-yorkais, en fait, est doté dans la vie des mêmes super-pouvoirs que le personnage qui l'a rendu célèbre. C'est-à-dire qu'il peut, du regard, déplacer un objet, il peut s'envoler, mais il ne le fait que quand il est seul. C'est-à-dire que personne autour de lui ne sait qu'il a ses super-pouvoirs. Donc évidemment, ça fait penser à un autre film qui est dans l'actualité, qui est Vincent n'a pas d'écaille, premier film français sorti la semaine dernière. Thomas Salvador, le cinéaste, était venu en parler ici. Et on a l'impression comme ça qu'il y a une sorte de mode du super-héros honteux, du super-héros refoulé, qui n'assume pas ses super-pouvoirs, au contraire qu'il les vit comme un handicap. Et les deux films comme ça travaillent à arracher le super-héros du genre de film de super-héros. C'est-à-dire qu'il injecte le super-héros dans un cinéma très réaliste. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais moi, ce qui me... Alors, il y a encore une nouvelle couche conceptuelle par-dessus tout ça. C'est que comme ça ne suffisait pas, Iñárritu décide de faire tout... décide de faire tout ça en un seul plan séquence. Et de toute... Alors, c'est la gageure qui pourrait paraître la plus clinquante et la plus gratuite, une espèce de tour de force comme ça, un peu impressionnant, mais un peu vain. Et en fait, moi, c'est ce qui m'attache le plus au film. Alors, évidemment, c'est un faux plan séquence, puisqu'aujourd'hui, avec les effets numériques, tout est possible. Et il y a plein de coupes qui sont absolument invisibles. C'est-à-dire que c'est pas comme à l'époque de la corde d'Hitchcock où il devait changer de bobine toutes les 10 minutes et ça se voyait un petit peu. Donc là, c'est une sorte de faux plan séquence, mais du coup, ça devient assez beau parce que ce film qui est fait sur toutes les hybridations, le théâtre et la vie qui se mélangent, le cinéma de super-héros qui se mélange à un cinéma intello new-yorkais, tout ça se mélange sur quelque chose qui en même temps l'unifie, qui est cette même coulée de cinéma, ce plan qui n'en finit jamais, et ça devient une très très jolie métaphore de l'existence humaine, où tout est chaos, où tout se mélange, mais qui en même temps est un seul trait, il n'y a qu'une seule prise possible, et quand ça s'arrête, eh bien c'est fini, et c'est ce que finit par dire le film.
Jean-Jacques Haneau, personne n'est venu vous chercher pour tourner des blockbusters ?
Oh si ! Ah si, mais oui, tous les...
Des super-héros mois. Aussi ?
Ah oui.
Ah ouais ?
Oui.
Vous refusez systématiquement ?
Pas du tout, non.
Ah bon ?
Non, c'est pas un cinéma qui me fait rêver. J'ai pas du tout cette veine-là. Mais pour, un jour peut-être, si le sujet me passionne, je veux ne me fermer à rien.
Très bien.
Le rendez-vous. Non, mais je veux dire, enfin, c'est normal de se toucher de temps en temps, mais sérieux, meuf, tous les soirs, faut vraiment être nympho, ouais, c'est abusé.
Plateau violence des rapports en milieu adolescent avec vous, Hélène Zimmer, qui signe votre premier film excellent à 14 ans, en issue le parcours de trois adolescentes en dernière année de collège, saison après saison, en banlieue parisienne. Jade, timide mais néanmoins insoumise, Sarah, la plus hardie mais la plus fragile, et puis Louise, en rupture avec sa famille mais plus raisonnable que les deux autres. Elles sont donc en troisième, à l'aube de leurs 15 ans, tiraillées entre leur quotidien familial. Le père est absent, difficulté avec les mères et les beaux-pères, et puis le collège où les rapports amicaux, amoureux, sexuels sont survoltés, le langage violent et les identités bouleversées. Bande annonce.
Bon alors les meufs,
t'es vexé à cause de mon petit mot ?
Sale puceau, va. Jamais tu me baises.
Oh ça va, ça ?
Mais c'est pas vrai, madame. Anthony, fais-moi tirer.
Ça fait que deux semaines et j'en peux déjà plus.
Non mais meuf, tranquille, l'année prochaine on sera plus avec tous ces gamins.
Spéciaux ta meuf là. T'as pas de couilles ou quoi?
Putain, c'est ma mère, faut que j'y aille.
Mais non, meuf, reste ici.
Non, elle va me casser les couilles.
Mais t'es sérieux?
T'étais où?
Je t'ai dit que je voulais plus que tu les vois.
Je ne veux pas que ma fille devienne une pétasse.
D'ailleurs, il paraît que tu t'es tapé Reza.
Maintenant qu'il est au lycée, il a plus à voir ta gueule tous les jours.
Bon, venez, on va dans ma chambre.
Je vous ai toujours dit que c'était une bouffonne, cette meuf.
Mais c'est clair, on aurait dû t'écouter plus tôt.
D'ailleurs, vous avez vu ses photos sur Facebook ou pas?
Non.
Bonjour. Vous allez vous taper une barre, mais mortelle.
Mais pourquoi elles font ça?
Elle a toujours été un peu comme ça, Sarah. Genre, elle t'aime trop et quand elle a décidé de quitter sa quête, elle te fait la misère.
Je suis sûre que tu l'as déjà fait, ça se voit. Ouais, je sais pas.
Mais de toute façon, tu feras bien un jour ou l'autre.
Hélène Zimmer, il y a quelque chose qui frappe quand on regarde le film, c'est la crudité de la langue qui est d'ailleurs parfois en décalage avec les rapports que les personnages ont entre eux, qui ne sont pas aussi violents d'ailleurs que les mots. Est-ce que tout est écrit ou est-ce que vous avez joué sur l'improvisation de certains de vos comédiens ?
Tout est écrit, mais l'improvisation s'est disséminée au fur et à mesure du tournage. Et voilà, il était important que certaines expressions qui sont tombées en désuétude aujourd'hui disparaissent du film. Et en commençant à répéter avec les comédiens, j'ai repéré les nouvelles expressions, je les ai ajoutées au scénario, voilà. Mais c'était quand même justement ce décalage entre les dialogues et ce qui se passe intimement, enfin dans leur intimité.
Violence des dialogues, et en fait.
Il se passe. Comment dire, ils font pas tout ce qu'ils disent, en tout cas, voilà. Ça, c'est tout ce que j'ai travaillé dans le scénario, donc les dialogues étaient très écrits, voilà.
Lucille, comment ?
Au début du montage, votre monteur Yann Dedet n'avait pas du tout la même vision des personnages que vous. Comment vous comprenez ça aujourd'hui, rétrospectivement, qu'on puisse...
Par rapport à ce que j'ai dit, c'est ça.
Yann Dedet, qui était aussi le monteur, bien sûr, d'A nos amours, de Maurice Piala.
Comment je comprends le fait qu'il...
Aujourd'hui, comment vous comprenez qu'à ce moment-là de la fabrication du film,
même à la fin, c'est quelque chose qui est resté et c'est ça qui était intéressant en fait. C'est que, disons que Yann Dedet, il y a quelque chose de très charnel quand il travaille les rushs et vis-à-vis des personnages, etc. Et donc, il a des attractions et des répulsions, alors que moi, j'aimais plus l'ensemble, enfin je m'obligeais à aimer l'ensemble et j'aime... Voilà, donc du coup, il y avait des conflits comme ça sur des personnages et sur ce qu'ils représentaient dans le scénario, dans l'histoire, parce qu'il y a aussi un décalage, enfin on n'a pas le même âge, c'est un homme, je suis une femme, et c'était, je pense, très très riche pour le film.
Vous filmez des corps souvent en gros plan, des corps qui semblent impossibles à fixer tant ils bougent en permanence, ils sortent puis ils rentrent dans le cadre. Quelles indications avez-vous donné à Caroline Champetier, qui est une immense chef opératrice ? Parce qu'il faut dire qu'entre Caroline Champetier et Yann Dedet, vous êtes quand même confrontés à des personnalités du cinéma français. Je regarde Jean-Jacques Hano qui hoche la tête.
Je pine du chef.
J'étais bien entourée.
Ouais, mais il faut être forte pour pouvoir résister à...
Mais de toute façon, voilà, on s'est... Enfin, ces deux personnalités m'ont plu. Voilà. Et à partir du moment où on a travaillé ensemble, tout s'est enchaîné.
Quelles indications, donc, pour filmer les adolescentes ?
Les indications, moi, ce qui m'intéressait avant tout, c'était de filmer le groupe. Pour moi, ce film, c'est un portrait de groupe. Donc, c'est que ce soit un portrait de groupe. Ensuite, qu'il y ait toujours une place importante qui soit conférée au hors-champ. Parce que, justement, il y a un décalage entre la parole et ce que pensent les personnages. Du coup, que dans toutes les scènes de groupe, il y en a pas mal, on s'attache à un regard de quelqu'un ou une absence d'un autre personnage pendant que la parole fuse, voilà. C'est surtout ça, en fait, le décalage, la distance et le groupe et le mouvement. Et qu'on soit surtout de leur point de vue.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les personnages d'adultes existent, mais ils sont filmés comme des ombres, des silhouettes de dos, une voix hors champ ou un corps de femme et la tête est coupée par l'écran. Ça voudrait dire que les adultes ont du mal à entrer littéralement dans le cadre du film, Hélène Zimmer ?
Ça veut dire qu'en tout cas, c'est la continuité de ce que je disais tout à l'heure. Je voulais que ce soit le point de vue des adolescents. Je voulais surtout pas qu'on ait de la compassion pour les adultes, pour les parents ou les profs, etc. Je voulais pas que leur regard sur les adolescents transparaisse à l'écran et du coup nous fasse juger le comportement des personnages.
Lucille.
Vous avez revu des films sur l'adolescence pour préparer votre film, notamment À nos amours de Maurice Piala, on en parlait, dont l'héroïne a 15 ans. Elle découvre que la sexualité, c'est la seule chose qui l'intéresse dans ses rapports avec le sexe opposé. Voilà pour un bref résumé du film. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce film-là et notamment dans la manière dont il construit l'identité féminine à cet âge-là ?
C'est tout ça. Je pense que ça m'a marqué tellement personnellement qu'en fait, je saurais même pas l'analyser. Je sais pas si ce personnage se dit que tout ce qui l'intéresse dans le rapport aux garçons, c'est le sexe. En tout cas, le seul moyen qu'elle trouve à ce moment-là de se forger une identité de femme et d'adulte, ça passe par le sexe, mais ça l'intéresse même pas forcément. Et c'est ça qu'on voit et c'est ça que je trouve beau. Elle s'ennuie un peu tout le temps avec ses garçons quand elle fait l'amour, quand elle drague pas, dans les bras de son père, dans les bras de son frère, dans les bras de tout le monde. Et en même temps, elle évolue de façon autonome et je sais pas. Enfin, ce film me touche beaucoup.
Il y a une chose qui est appréciable et aussi assez exceptionnelle dans le cinéma français, c'est que vous évitez systématiquement tous les pièges. Par exemple, il y a une fille qui est mise à l'écart, qui est harcelée. Et dans tout le film, je me suis dit, putain, c'est le suicide de l'adolescence. Pas du tout. Puis d'autres scènes où vraiment tous les pièges, on va dire, sociologiques sont évités, mais avec une justesse absolument incroyable. Pas d'analyse sociologique, le milieu social ne détermine en rien le rapport et le parcours des personnages. Est-ce que c'était important pour vous, justement, de ne pas céder à cette tentation-là, Hélène Zimmer ?
Oui, mais c'était surtout pas une tentation du tout pour moi. J'avais très envie, d'une part, de dépeindre la classe moyenne et surtout de faire un portrait d'adolescent où on ne puisse pas dire, on ne puisse pas, voilà, comme vous l'avez dit, expliquer leur comportement par rapport à un déterminisme social. Donc pour moi, c'était essentiel et ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas d'entrer dans l'analyse. J'avais envie vraiment d'être dans leur pulsion et dans leurs états d'âme.
Tout à l'heure, Jean-Jacques Hano disait que lui, il avait fait des écoles de cinéma. Vous, comment vous êtes arrivé au cinéma? Vous êtes très jeune, premier film.
Je dirais que c'est par l'écriture. Vraiment, ce scénario, c'est par l'écriture et enfin par le goût de l'écriture et par la littérature du. Le récit, voilà, je ne saurais pas en dire davantage. Je ne suis pas une grande cinéphile au départ.
Quelle littérature ?
Je suis très portée sur la littérature du 19e siècle, mais après, voilà, et le roman notamment. Mais tous les types de récits me plaisent et m'intéressent.
Lucille ?
Le film est dédié à Benoît Jacquot qui a lu et soutenu votre projet. Vous avez aussi coécrit avec lui le scénario de Journal d'une femme de chambre, son dernier film qui sortira dans quelques semaines sur les écrans. C'était un roman du 19e siècle, fin du 19e, Octave Mirbeau. À la première personne qui donne la parole à une domestique et à travers elle dévoile les dessous pas très catholiques de la vie bourgeoise, est-ce qu'il y a eu des liens avec la manière dont vous avez fait votre film, entre vos deux travaux, peut-être l'écriture du scénario et l'écriture de votre film?
Pas nécessairement. Après, le lien, c'est que j'ai proposé ce projet à Benoît, donc c'est quelque chose que j'avais très envie de faire. Et dans le roman de Mirbeau, ce qui me plaît, entre autres, c'est aussi sa capacité à écrire des dialogues absolument incroyables et à dresser des formules extrêmement comiques. Et donc, voilà, j'ai pris un plaisir immense à écrire les dialogues de... Enfin, une partie des dialogues de scénario, tout comme les dialogues d'à 14 ans sont très écrits aussi. Voilà. J'aime écrire des dialogues.
Contrairement à Jean-Jacques Hano qui en écrit, il y en a, mais très peu quand même.
Non, ne croyez pas ça. Je passe en fait beaucoup plus de temps à écrire les films qu'à les tourner, ou à les monter, ou à les scénariser.
Oui, mais écrire des dialogues, c'est pas la même chose.
C'est pareil, c'est le travail, si vous voulez, de l'écriture de l'image est très compliqué parce qu'il ne faut pas que vous fassiez un roman, mais il faut que vous racontiez ce que le spectateur va voir, et il faut le raconter avec le plus de grâce possible pour que vos premiers lecteurs soient déjà au cinéma. Et les dialogues demandent d'être ciselés avec beaucoup, beaucoup de précision. Je passe un temps fou, je suis très charmé de voir quelqu'un qui vient justement de l'écriture, parce que c'est ce qui manque le plus. Un bon film, c'est d'abord, comme le disait Hitchcock, un scénario, puis un scénario et encore un scénario. Bien évidemment, c'est la base de tout. Et les cinématographies qui négligent l'écriture ne sont pas des cinématographies qui sont à la hauteur de l'attente.
Hélène Zimmer, vous avez été actrice dans deux courts et un long métrage, Q, de Laurent Bounic en 2011. Depuis, plus rien. Ça veut dire que vous êtes déçue par le jeu?
Oh, ça veut dire que j'ai arrêté ma grande carrière d'actrice. Non, j'ai fait ça, voilà. Il se trouve que pendant une année, je venais de finir ma prépa, voilà, mon année de Cagnes, je me suis retrouvée à tourner dans le film de Laurent Bounic, puis à passer des castings et à travailler un peu. Vous auriez pu citer quelque chose de plus intéressant, comme une performance de de Pierre Huyg que j'ai faite sur... Ça, c'était très intéressant.
Ça consistait en quoi, cette performance?
C'était au Musée des Arts et Traditions Populaires, et il avait choisi 30 comédiens qui mettaient dans ce musée qui est fermé au public depuis des années, au milieu des... Et puis, il faisait... Il y avait par exemple le procès de Bocassa, je mélange tout, excusez-moi. Le procès d'Action Directe, le couronnement de Bocassa Ier, enfin plein d'événements comme ça de l'histoire contemporaine qu'il faisait jouer. Pas si j'ai compris ce que j'ai fait, ce serait trop long à expliquer. Mais en tout cas, c'était justement fascinant pour moi. Je touchais des lapins comme ça dans des endroits du musée. Je devais fêter mon anniversaire toute seule dans un sous-sol du musée avec une bougie. Et il y avait 5 équipes caméras qui venaient. On a fait ça sur. Non, mais c'était absolument. Ahurissant, ce truc. Donc voilà. Mais sinon, je ne suis pas actrice et je faisais ça pendant mes études et c'était une carrière écourtée.
Lucille.
Comme tous les jours, on demande donc à nos invités de nous suggérer un son qu'ils ont envie d'entendre et vous, Hélène Zimmer, vous avez choisi ça.
L'on est bonne sur la terre que pour les fleurs d'un parterre, les oignons et les poireaux, les navets et les citrouilles. Pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Sommes-nous des grenouilles dans l'eau? Sommes-nous des grenouilles?
C'est pour Benoît Lagan, ce son.
C'est exactement pour lui que vous avez choisi.
C'est la chanson plus bifluorée. Je vous ai vu 10 fois en concert, c'est génial.
Oh. Alors. Bah voilà. Bah c'était pour vous, en fait.
Pour quelle raison vous avez choisi donc?
Pour quelle raison? Simplement parce que je me disais que c'était l'heure de l'apéro et pour trinquer avec tous les gens qui nous écoutent et qui sont en train de boire un coup. Voilà.
À 20h?
Bah 20h, oui.
Dans quelques instants, en effet.
C'est
terrifiant. J'avais l'image juste de femmes qui attendaient comme ça et d'hommes qui se jetaient sur elles à chaque fois comme des bêtes.
J'avais pas compris le but, pardonnez-moi. Et après, je suis devenue une vierge effarouchée, toujours à hauteur de tatami.
Très bien.
Merci à nos invités, Jean-Jacques Hano et Hélène Zimmer. Le dernier loué à 14 ans sont en séance en salle aujourd'hui. Je signale que L'Amant et la Victoire en chantant sont ressortis, remasterisés, restaurés.
C'est l'ours.
C'est l'ours, voilà. Et quoi?
Et L'Amant.
Très bien. Sont ressortis, remasterisés, restaurés sous le label Pathé. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain?
Oh, faut pas vous inquiéter comme ça. Ayant assez peu de relations dans le milieu cinématographique, j'ai du mal à comprendre comment je pourrais perturber votre business.
Demain, une émission goûteuse avec Pierre Arditi, que l'on vient d'entendre. À ses côtés, la sommelière Estelle Touzé. La désannonce, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Benoît Laguen, Aïssatou Endoy, Adrien Azeli et Hippolyte Babilote, Journal de la Culture aux OSFES, Chronique Cinéma, Jean-Marc Lalanne. À la prise de son, Anthony Thomasson et Thibaut Jarmez, et à la réalisation, Thomas Beau. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours et la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.